Bonjour messieurs, nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir James Madeira. Alors, depuis que vous nous suivez, vous savez que régulièrement on vous parle de cuisson basse température sous vide, de recrutement, de rentabilité. Et là, on a la chance aujourd'hui d'avoir James qui nous fait la gentillesse de venir. Juste pour vous expliquer, on ne travaille pas ensemble. En fait, on n'est jamais intervenu dans les restaurants de James. C'est simplement qu'on s'est rencontrés avec nos activités différentes et puis on a senti que les uns et les autres, on avait des points communs. Et aujourd'hui, James va nous parler de son activité, de ce qu'il fait et de comment justement il a organisé ses restaurants autour de ce qu'on vous raconte depuis maintenant plusieurs mois. Donc James, avant de te laisser la parole, est-ce que tu peux un peu justement te présenter ton activité et puis après nos amis Christophe et Didier feront un plaisir d'échanger avec toi.
Bonjour, alors je suis James Madeira. J'ai une activité principale qui est traiteur, organisateur de réception. Donc traiteur qui ne fait pas de plat du jour, pas de vente à emporter. Je ne fais que des grosses réceptions. Et puis un jour, j'ai décidé d'investir dans un premier restaurant de façon à avoir un pied-à-terre, un fonds de commerce. Parce que j'ai bien évidemment compris que les gens n'allaient pas se marier une seconde fois juste pour faire appel à ma cuisine. Et en fait, je me suis aperçu que dès le premier restaurant, mes méthodes fonctionnaient immédiatement. Tout a marché tout de suite. J'en ai même pris un deuxième et l'activité vraiment continue. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est votre slogan des établissements où il fait bon vivre, où il fait bon travailler, où il fait bon manger, parce que c'est exactement comme ça que j'entends la chose.
D'accord. Est-ce que on parlera tout à l'heure un petit peu de comment tu vois la situation actuelle, les difficultés de recrutement, les difficultés qu'on a à trouver du personnel, parce que ça, c'est des sujets qui nous touchent et d'actualité. Mais comment justement, on parlait de cuisson basse température sous vide, tu organises ton activité autour de ça et comment justement ça résout un peu les problématiques que rencontrent nos restaurateurs?
Alors j'ai des services en dents de scie, comme tout le monde. Actuellement, les choses sont un peu compliquées. On est capable de faire le plein dans mon restaurant. J'ai un restaurant en ville et un restaurant en zone commerciale. On est capable de faire le plein un samedi midi en ville, alors qu'avant on faisait pas parce que les gens étaient dans les boutiques. On est capable de faire le plein un soir en semaine dans le restaurant de la zone commerciale, alors que avant le soir en semaine, on avait plutôt une clientèle de VRP. Et donc la cuisine basse température, sous vide, m'a apporté quelque chose que j'appelle le zéro perte. Grâce à la température contrôlée des cuissons, grâce aux appoints, à la pertisation qu'on peut pratiquer avec des cuissons sous vide et en basse température, je peux arriver à stériliser des viandes, des plats, des sauces. Je peux conserver plus longtemps les aliments. Et je vais vous citer un exemple très concret. Vous arrivez dans mon restaurant, il est 21h et vous me demandez une côte de bœuf pour deux. Ma côte de bœuf fera au minimum 1,2 kg. Elle sera conservée, maturée sous vide avec de l'huile et rien d'autre, dans une poche en chambre froide depuis au moins une semaine. Je vais la mettre dans mon thermoplongeur pendant à peu près 15 minutes. Mon thermoplongeur sera réglé à 56 degrés. Ma côte de bœuf va monter lentement en température. Elle n'arrivera jamais à 56 degrés. Je vais la sortir du thermoplongeur au bout de 15 minutes, ce qui fait qu'elle sera peut-être à cœur à 40, 45 degrés. Là, je vais la snacker très fort. La snacker au point de la cautériser pour vraiment piéger les sucs à l'intérieur. Ensuite, j'y mets une sonde. Je regarde la température. Si elle a besoin d'un appoint, je la mets au four un petit peu. Mais généralement, en sortie de plancha, elle est prête à consommer. C'est-à-dire que elle sera à 53 degrés bleu, 54 saignante et au-delà, cuit, semelle, ce que le client me demandera. Y compris de temps en temps, quand tu as un héros qui te demande une côte de bœuf pour deux, mais madame mange bien cuit et moi saignant. Même ça, je suis capable de le faire. Voilà, ma côte de bœuf, je vais vous la sortir en moins de 20 minutes, grâce à la cuisson sous vide et à la basse température.
À la dernière minute, oui. Ok, tu as combien, combien d'établissements ?
J'ai 4 établissements, 2 restaurants, une salle des fêtes et un château. dans le château, je ne fais que des réceptions.
D'accord. Et tu as centralisé ta production quelque part ou est-ce que tu produis dans tous les lieux?
Alors, chacun des établissements cuisine, donc on ne fait pas de réchauffé, mais mes sauces qui sont la signature, tous les plats qui nécessitent des cuissons de nuit, par exemple, puisque l'avantage de la basse température sous vide, c'est qu'on peut déclencher des cuissons de nuit. De nuit, c'est bien, l'électricité est moins chère. Personne n'est là pour vous dire j'ai besoin du four. Vous lancez vos cuissons quand vous partez le soir, quand vous arrivez le matin, vous n'avez plus qu'à vider votre four et à coller tout ça dans de l'eau glacée ou dans une cellule de refroidissement et le tour est joué. Je prépare des joues de bœuf dans mon laboratoire de traiteur. Je prépare des ribs de cochon, des ribs de bœuf. Je prépare toutes mes sauces, toutes les cuissons qui nécessitent de la basse température et des cuissons longues, je les fais d'avance dans mon dépôt, ce qui fait que dans les restaurants, finalement, quand on vous demande une joue de bœuf, bien écoutez, vous allez cuisiner pour de vrai, puisque vous allez démarrer votre poêle avec quelques oignons, avec un petit peu d'huile et de beurre, on met un petit peu de sel pour que les oignons pleurent, on va déglacer tout ça avec du pinot noir, on balance la sauce. Qui est à l'intérieur, la sauce va se faire minute, puisque cette viande qui a cuit sous vide a lâché de l'exsudat. On va bien laisser réduire tout ça. On y ajoute une petite cuillère de la sauce du chef pour obtenir le goût voulu. Et on a une poire de bœuf qui va vraiment, une joue de bœuf qui va vraiment fondre dans la bouche. Je fais aussi des poires de bœuf. Ma langue a fourché. Excusez-moi. Je parlais bien de joue de bœuf.
Ça doit vous parler, messieurs?
C'est vrai, ben c'est vrai que ce qu'on rencontre souvent chez les restaurateurs, c'est qu'ils font la confusion entre ce qu'ils peuvent acheter en cuisine sous vide dans l'agroalimentaire, ce qu'on va appeler, que ça soit Pomona, Davigel, etc. Et ils font la confusion entre cette qualité qui est quand même relativement médiocre, on va dire, et la qualité qu'eux, ils peuvent sortir en traditionnel. Ils n'imaginent pas une seconde qu'on peut obtenir avec de la cuisine sous vide basse température quelque chose de plus qualitatif que ce qu'ils arrivent à fabriquer eux-mêmes. Donc, et c'est ça la grosse différence. C'est-à-dire, il faut faire rentrer, c'est vrai que ça commence à se démocratiser un petit peu, mais il faut faire rentrer dans l'inconscient des professionnels qu'on peut travailler avec leurs recettes et qu'on aura un résultat qui sera bien meilleur que ce qu'ils peuvent trouver dans l'industrie agroalimentaire.
Alors, je pense qu'on va au-delà de ça avec notre système, parce que il y a cuisson et cuisson. Vous voyez, la raison pour laquelle dans mes cuisines il y a des thermomètres sonde partout, c'est que la pointe cuisson est absolument nécessaire. Je peux mettre des légumes sous vide et balancer ça dans mon four pour la nuit. Demain matin, j'ouvre, j'ai une ratatouille. Ou selon les degrés, j'aurai peut-être des légumes qui seront croquants. Ou alors j'aurai carrément une purée. Et le fait de pouvoir maîtriser la cuisson, c'est extrêmement important parce qu'on va préserver les propriétés organoleptiques des aliments. Il ne s'agit pas de cuire pour cuire. Quand on achète un truc qui est cuit sous vide, c'est stérilisé dans une usine, ça a forcément dépassé les 70 degrés, donc vous avez déjà flingué les trois quarts des nutriments qui sont à l'intérieur. Vous allez manger ce truc, vous allez juste remplir votre estomac. Vous ne nourrirez pas votre corps.
On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors,
Voilà, je suis.
l'expertise de Christophe.
Ah ben non, mais moi j'ai rien à dire. C'est exactement ce que je vis au quotidien. Après, on peut pas se battre contre l'ignorance. Le seul moyen de se battre contre l'ignorance, c'est de pratiquer. Et c'est ce que l'on fait au quotidien quand on fait des formations. Moi, je fais des formations, bien évidemment, il y a une fermeture des chefs, des seconds. Et puis, j'y passe une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et puis, à la fin, ils veulent que je reste. Et puis, je leur apprends pas mal de choses. Et c'est une technique, c'est un travail qui est un petit peu, qui est proche de celui du cuisinier. C'est ce que je leur dis, parce qu'à chaque fois que je viens, ils me disent, mais on travaille pas pareil. J'ai dit, bah si, on travaille pareil. On fait la même chose, c'est le même métier. Donc, le fait d'avoir travaillé effectivement sur des rips la nuit, d'avoir des goûts qui sont concentrés, etc. Mais le métier, c'est exactement le même. Là, justement, j'étais en train de dire à Xav, je viens de faire un couscous. Parce qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de travailler. Je à trouver un couscous un petit peu que les autres ne font pas. Et comme ma maman est quand même née en Tunisie, je crois qu'il faut lui rendre hommage. Il faut faire un couscous digne de ce nom. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que je fais un couscous où tout est sous vide et l'envoi se fait en quelques minutes avec une température effectivement qui est à cœur parfaite. J'ai un confit qui me convient. Donc, je vais avoir vraiment ce que je désire moi. Donc, il y a des choses qui seront à 72 degrés, 74 degrés. J'ai quelques légumes qui seront à 85, 90, etc. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que je vais obtenir effectivement vraiment ce que je veux obtenir. C'est-à-dire un fondant, si je désire un fondant, un petit peu avec certains de mes légumes vont être un peu plus croquants, etc. Donc, c'est vraiment déjà, c'est un jeu. Ça devient vraiment, et puis c'est vraiment pour moi, c'est de la technicité. Et le sous-vide, c'est l'art de maîtriser justement la cuisine.
Et puis ça a un autre avantage également, c'est par exemple que au niveau des couleurs, quand tu cuis des légumes en sous-vide basse température, au niveau des couleurs restituées, on est presque sur la couleur d'origine, quoi.
Oui, tout à fait. Après, moi, je joue. C'est vrai que moi, je joue aussi. Je mets du bicarbonate. Je m'amuse. C'est-à-dire, je joue avec la chimie.
Ce qui détruit la couleur, généralement, c'est la surcuisson.
Oui.
Ça, ça loupe pas. Vous voyez, je fais une mousseline de pois gourmand. Ça fait une jolie virgule dans mes assiettes. J'ai des assiettes noires dans mes restaurants. Si on chauffe de trop cette mousseline, c'est une mousseline tout ce qu'il y a de plus nature. Y a rien dedans à part le pois gourmand et un petit peu d'eau de la cuisson pour que le mixeur arrive à faire l'onctuosité voulue. Bien, si on chauffe un peu de trop, de ce vert éclatant, ça devient un vert presque kaki, un vert moutarde. Ça n'a plus d'intérêt. Et en fait, ça prouve bien qu'à un moment donné, avec trop de cuisson, on flingue les propriétés de la denrée alimentaire. Vous voyez, l'avantage, très concrètement, seul, je peux envoyer dans mon restaurant 45 couverts. Avec 2 heures de mise en place, qu'on se le dise. Moi, les mecs qui prétendent que la restauration, c'est une vie de chien, ils ont rien compris. Ils devraient payer pour venir en stage chez moi. Parce que nous, le matin, on commence à 10 heures du mat. Vous vous rendez compte, la vie compliquée que nous avons? Nous avons madame le matin qui nous fait emmener les enfants à l'école, préparer le petit déjeuner, descendre la poubelle. Et encore, l'été, j'échappe à la tondeuse à gazon. Mais on commence à 10 heures du matin. C'est horrible comme vie. Et puis, on est obligé de recevoir les colis quand elle commande des trucs de filles. On est là, elle est partie au bureau, elle a de la chance, elle est partie travailler plus tôt. On arrive à 10 heures, on peut même plus prendre le petit déjeuner avec les copains, c'est fait. À 10 heures, on se met au boulot, c'est même pas encore l'heure de l'apéro. En 1 heure, on a fait le repas du personnel, on fait notre repas de famille à 11h, 11h15. On a déjà lancé tout ce qui nous manquait parce qu'on l'a noté sur le tableau la veille. À midi, heureusement que les clients arrivent, sinon on ne sait plus quoi faire. Vers 13h30, 14h, il n'y a plus grand-chose à faire parce qu'en fait, on n'a vraiment pas beaucoup de vaisselle avec la cuisine sous vide et la basse température. Et puis, quand vous avez l'imprimante qui vous crache le bon ou vous avez une table de 4 qui va vous commander 4 entrées, 4 plats, vous pouvez lancer la montée en température des viandes et des poissons, ou des légumes même, pendant que vous préparez vos entrées. Vous savez que votre entrée, vous allez la préparer en moins de 10 minutes. Alors, pendant ce temps, vous lancez vos viandes en remontée de température, toujours sous vide, eh bien, une fois que vos entrées sont parties, vous savez que votre client, il va les consommer en au moins 20 minutes. Donc, 20 minutes plus tard, on va vous réclamer la suite et vous devrez l'envoyer en moins de 10 minutes parce qu'au bout de 15 minutes, voire 20, le client commencera à trouver salon. Et entre un début et un fin de service, c'est clair que on commence un petit peu à prendre du retard. Donc, le fait de pouvoir faire les entrées pendant que vos poches sous vide se mettent en température tout doucement, eh bien, c'est super facile parce qu'une fois que vous avez envoyé vos entrées, vous avez juste à saisir vos viandes, à passer vos poissons au grill, etc. selon votre recette. Et quand la fiche suivante vous réclamera, quand la réclame du plat arrive, eh bien, il vous suffira de dresser. Vous aurez eu le temps de mettre en température tout ce que vous voulez. Vous laissez vos sauces au bain-marie ou alors vous les passez un petit peu en montée de chaleur si c'est nécessaire selon la méthode, mais on peut tout à fait cumuler le sous-vide avec une cuisinière à gaz ou avec une cuisinière à induction ou avec une plancha ou même un barbecue. Figurez-vous que quand je reçois mes copains à mon chalet au milieu de la montagne et qu'on se fait un petit truc, tiens, dernièrement, j'emmène un petit exercice juste pour les embêter, j'achète des selles d'agneau que je fais couper en tranches assez épais, et je leur demande de me faire une royale. Alors, ils me regardent avec des gros yeux, donc en fait, on prend la selle, on enlève l'os au milieu, on remplace l'os par un petit peu de viande hachée, on attache tout ça, on met ça sous vide, et puis on met ça dans une casserole, ça monte un petit peu en température, et quand c'est le moment d'envoyer, j'ai une vieille poêle en ferraille, en fonte, que je pose sur le barbecue, sur la braise, on fait un aller-retour de notre selle d'agneau, et c'est magnifique. Et en fait, vous pouvez monter votre côte de bœuf sous vide en température avant de la coller sur le barbecue. Dites-vous bien que si votre côte de bœuf, si votre steak de bœuf, si votre tourne d'eau, quelle que soit la viande que vous voulez cuire, dites-vous bien que si elle est sous vide et que vous la montez doucement en température, ça va limiter le choc thermique au moment de la cuisson. Donc vous aurez une réaction de Maillard qui va faire en sorte que la viande crache beaucoup moins d'exsudat, parce que figurez-vous que si vous sortez un bout de viande à 2 degrés d'un frigo et vous la collez sur une plancha à plus de 100 degrés, il est clair que la viande va réagir comme votre peau si vous vous brûlez avec une cigarette. Tout va se resserrer. Si les vaisseaux de la viande crue que vous sortez du frigo à 2 degrés, vous la collez sur une plancha prête à griller, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va se contracter. En se contractant, elle va chasser son jus, donc elle va moins confire en cuisant et elle sera beaucoup plus dure, moins juteuse quand on la mange. Alors que si vous montez doucement votre viande en température et qu'ensuite vous la grillez, eh bien, vous aurez un premier bénéfice, les amis. 17% de marge supplémentaire sur vos viandes. Voilà ce que je gagne en un an. Ça se chiffre en euros.
Oui, mais ça...
Dites-vous bien que c'est un kilo de viande avec son jus. Un kilo de viande où t'as perdu le jus, eh ben t'as perdu le pognon.
C'est exactement le point que je voulais soulever par la suite. Il y a eu un exemple qui a été fait, une étude qui a été faite sur du bœuf bourguignon. Du bœuf bourguignon, on le sait, on est tous cuisiniers. On sait que quand tu fais un bœuf bourguignon de façon traditionnelle, tu as une perte d'environ 30%, à quelque chose près.
Ah, il y a une freinte énorme.
En sous-vide, t'as zéro.
Il y a une freinte énorme sur la... Absolument. Sur l'ajout de bœuf, ça bouge quasiment pas. C'est comparable, hein. C'est une viande à braiser, finalement. Avec votre bourguignon, vous avez 100% raison. La freinte est très très faible et on a une économie de matière importante.
Donc, des portions à vendre en plus.
Absolument. Quand vous promettez à votre client 200 grammes de viande, eh ben il faut qu'il ait 200 grammes de viande. Et je suis désolé s'il trouve que la portion elle est un peu frugale et que vous lui dites oui, ça a fondu à la cuisson, il va vous dire mais je m'en fiche monsieur, ouais. Je vous ai payé 200 grammes de viande.
C'est ça.
Je veux 200 grammes de viande dans mon assiette.
Exactement. Donc ça présente quand même beaucoup d'avantages. Autre avantage également que je voulais souligner, pardon, Xavier va encore dire que je monopolise la parole. Autre avantage, nous sommes en pleine crise du coût de l'énergie, on peut pas le nier. Or, la consommation d'un thermoplongeur, elle est égale à plus ou moins un frigo ménager. Donc ça consomme, c'est-à-dire ça coûte beaucoup moins cher de cuire avec un thermoplongeur que de cuire avec des fours traditionnels. L'économie, là, elle est exponentielle, elle est énorme.
Alors, par traditionnel, cher Didier, soulignons que c'est un four électrique. Oui. On ne peut pas faire une cuisson basse température de nuit avec un four à gaz, ça ne fonctionne pas.
On est d'accord, on est d'accord. Non, non, mais je comparais la cuisson traditionnelle sans sous vide et la cuisson sous vide au thermoplongeur. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est que la cuisson en sous vide basse température, traditionnellement, revient moins cher, beaucoup moins cher que la cuisine traditionnelle. Même si on le fait avec un four, même si on le fait avec un four à vapeur, parce que ton four à vapeur, tu vas le régler à entre 90 et 100 degrés, il va consommer beaucoup moins que si tu saisis une viande à 180 degrés, quoi.
Ben, je pense que Yann va souligner vos propos et les miens qui vont suivre les vôtres. C'est qu'en fait, la cuisson basse température et sous vide va vous donner un contrôle sur l'hygrométrie et un contrôle sur la pointe de cuisson. Si vous dites à votre thermoplongeur, je veux faire une confiture, vous collez les fruits là-dedans, c'est tant de degrés, il y aura tant de degrés. Si vous voulez des légumes croquants, si vous voulez une viande qui reste bleue, si vous voulez simplement stériliser, parce qu'on peut aussi stériliser à basse température, tout le monde est persuadé qu'il faut absolument faire bouillir. Eh ben, c'est pas vrai. Vous pouvez stériliser 100 minutes à 70 degrés ou 70 minutes à 100 degrés oui. En stérilisant sous vide. Voilà, Yann, la balle est dans votre camp.
Ouais, non, mais tout est dit. Moi, j'écoute parce qu'au fait, j'écoute pour une fois et puis c'est très intéressant. Ça ne fait que rejoindre ce qu'on a dit dans les autres podcasts et à chaque fois qu'on a parlé du sous-vide. Là, l'avantage, c'est que c'est quelqu'un qui vient, c'est une quatrième personne qui tient le même discours. Aujourd'hui, petit à petit, je vois que tout le monde commence à tenir ce discours. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi il y a eu cette mauvaise réputation, bon, peu importe. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que dans le sous-vide, je me fais plaisir. Je pousse le bouchon beaucoup plus loin, je m'amuse à faire des choses qui des fois sont techniquement impossibles autrement, je le cache pas. Mes meilleures rouelles de porc que j'ai faites, c'est sous vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont même étonnés quand je fais du porc parce qu'ils me disent « mais c'est bizarre ». C'est pas possible que le porc soit aussi tendre. C'est pas du porc.
Ouais, c'est pas. C'est bon. Et c'est pas.
Ah oui, d'habitude. Ah oui.
Et c'est pas sec.
Alors c'est pas sec. Et après, on s'amuse parce que il y a ce qu'on va mettre dedans. Moi, la dernière fois, j'ai fait du porc, puis j'avais mis de la graisse de canard. C'est tout con. Il y a rien d'extraordinaire là-dessous. Avec, je crois que j'avais mis du curcuma, un truc comme ça. Bon. Et puis les gens me disent, mais pourquoi la graisse de canard? Je dis, mais pourquoi pas? C'est-à-dire que après. Puisqu'on connaît le système, on va pouvoir s'amuser et on va pousser le bouchon de plus en plus loin. Après, on va faire aussi des marinades qui sont, parce que effectivement, moi, j'ai une cloche qui me permet en fait. Alors, quand je dis j'ai une cloche, c'est vraiment voilà, je me suis embarqué là.
Je ne sais pas de qui tu
parles. Non, pas du tout. Donc, c'est rien, j'ai le droit de craquer, je fatigue un peu. Oui. Trop d'heures en ce moment. Et donc, j'ai une cloche qui me permet justement de travailler, à retirer l'air, le ramener, le retirer. Et en fait, qui me permet de mariner en 10 minutes. J'ai mariné ce que j'aurais dû mariner pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire une nuit complète. Fait gagner du temps. On va pas rajouter le foie gras, parce que le foie gras, moi, à l'heure actuelle, je suis encore en train de pousser un petit peu le bouchon un peu plus loin avec le foie gras. J'obtiens des foie gras qui sont à tomber par terre. Donc, j'essaie différentes techniques parce que je vais un peu plus loin. Et justement, c'est qu'on peut se permettre de le faire. Et ce qui est fabuleux, c'est que je fais tout en même temps. C'est-à-dire que je vais faire, si je fais par exemple des ballotines de foie gras, je vais les mettre dans la même, alors pas forcément à la même température, mais je vais les mettre, par exemple, aller à 53 degrés. Et je vais me faire quelque chose à 53, 55 degrés. Et après, je vais monter la température. Et ce qui va même permettre d'avoir énormément de voir qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je perds pas, quels sont les goûts, où les goûts ont besoin d'être poussés. Des fois, à un demi-degré près, on a un goût qui apparaît qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Et après, j'obtiens des choses où d'un seul coup, j'ai un goût de noisette. Alors, je cherche d'où vient cette noisette, parce que moi, j'ai pas mis d'huile de noisette. Et en fait, je finis par comprendre, en allant chercher un petit peu sur Internet, en demandant à des amis cuisiniers, ben, ils m'expliquent qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment génial, en fait. Pour faire simple, c'est topissime. Voilà.
Ouais, je voulais changer de sujet et revenir un petit peu sur le recrutement. Comment ça se passe, le recrutement pour tes restaurants, toi, James ?
Alors, écoute, moi, je pense que j'ai de la chance. J'essaye de me l'expliquer parce qu'en fait, j'ai pas de souci de personnel. J'ai pas de souci de personnel. J'ai pas beaucoup de turnover, alors que nous sommes une profession où voilà, les gens ont besoin d'évoluer. Les cuisiniers, une fois qu'ils pensent maîtriser la carte du chef, partent ailleurs. Pour apprendre davantage et un jour ouvrir leur établissement. D'abord, moi, mes collaborateurs, je leur propose plus qu'un job. Il y a ceux qui veulent qu'un job. Dans ce cas, j'ai du boulot pour eux. Mais ceux qui le souhaitent, je leur propose une carrière. Parce que, tout simplement, j'ai plusieurs établissements, je compte en ouvrir d'autres. Mais je pense que je ne manque pas de candidats quand je fais un recrutement. D'abord parce que j'ai appris à recruter. Ensuite, je suis présent sur les points de passage des gens qui cherchent du travail. Donc, quand une institution m'appelle pour participer à un forum de l'emploi, j'y vais. Quand une radio m'appelle pour parler de mon métier, j'y vais. Il faut leur donner envie, il faut leur donner confiance, il faut leur donner l'exemple. Quand l'UMI me demande si je suis disponible pour être jury d'examen, j'y vais. Et les candidats repartent tous avec ma carte de visite. J'ai été apprendre à recruter, j'ai fait des stages pour apprendre à recruter, pour apprendre à m'entretenir avec les candidats, les sélectionner, pour apprendre à rédiger une annonce. Et puis ensuite, je développe une relation personnelle avec mon conseiller chez Pôle emploi, qui est une conseillère, qui me donne un coup de main quand il faut programmer mes annonces. Ensuite, j'ai pris le temps de me faire expliquer comment fonctionne l'application de Pôle emploi, parce que peu de gens le savent, mais vous pouvez aller sur votre espace employeur, rédiger votre annonce, sélectionner un certain nombre de mots-clés qui vont vous donner une liste de candidats potentiels, et vous pouvez vous-même leur envoyer leur annonce instantanément, au lieu d'attendre que le poisson morde à l'hameçon et que vous ayez des signes sur votre bouchon de canne à pêche. Vous pouvez faire beaucoup plus vite que ça. Ensuite, j'ai des établissements qui effectivement sont bien pourvus, et du coup, ça me met en sécurité pour mon traiteur. Dites-vous bien qu'un mariage où j'ai 200 personnes à l'apéro et 120 personnes à table, si vraiment un jour j'ai des soucis avec mes extras, mon Dieu, je ferme un de mes restaurants. Mes restaurants font 30 ou 40 couverts. Vous vous doutez bien que le chiffre d'affaires d'un mariage est très largement supérieur à un restaurant. Ou alors je diminue simplement la brigade de mes établissements et je peux aller tranquillement recevoir un ambassadeur ou un mariage ou une grosse noce. Et donc l'important quand on veut recruter, c'est de se dire, bon sang, je n'arrive pas à recruter, en fait le problème c'est moi. Et c'est ce que je me suis dit un jour, je me suis dit, bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus sélectionner les gens, je bosse avec des collaborateurs à problème, comment ça se fait que j'ai pas vu venir cet état de choses? Je ne sais plus recruter, je dois réapprendre. Alors je me suis effectivement renseigné. On a la chance d'avoir un CEFPA à Strasbourg qui propose des formations intéressantes, qui certaines d'entre elles sont payées par l'OPCO dans le cadre des accords de branche. Et je me suis performé, voilà. Et je n'hésite pas à donner quelques conseils à ceux qui m'en demandent. Mais à un moment donné, quand un jeune ne trouve pas de travail, quand il fait 4 ou 5 employeurs, et qui se plaint de pas trouver de boulot, qu'est-ce qu'on va lui dire à ce jeune? On va lui dire, mais attends, le problème, c'est pas forcément que les autres, tu dois en faire partie, peut-être que tu devrais te remettre en question, habille-toi correctement, coiffe-toi comme il faut, remonte ton pantalon parce qu'on n'a pas besoin de voir ton caleçon, ferme tes baskets, je sais pas, à un moment donné, il faut que tu aies, si tu postules à une place de moine, il faut que tu aies l'air d'un moine. Donc si on postule pour une place, il faut s'habiller en conséquence, de manière à marquer le respect du que tu as envers le recruteur ou l'établissement. Il faut se renseigner avant d'y aller, etc. C'est tous ces conseils qu'on va donner à un jeune qui cherche un emploi. Mais alors un employeur, quand il trouve pas d'employé, quand il sait pas passer une annonce, quand personne se présente, ou quand il n'a que des problèmes avec les gens qui viennent bosser chez lui, eh bien, je pense qu'à un moment donné, quelqu'un devrait lui dire, mon petit gars, le problème, c'est toi. Remets-toi en question. Est-ce que tu t'es remis à niveau? De quand date ton dernier stage pour encadrer un apprenti? Etc., etc. Parce que les mêmes conseils qu'on donne à un gamin qui trouve pas de boulot, ben, si on les transpose, on pourrait les donner à un employeur qui ne trouve pas d'employé, je pense.
Alors, tu as tout à fait raison. Je vais te contredire quand même sur un point. C'est que tu as dit que tu avais de la chance. Eh ben, moi, je suis pas d'accord avec toi. Ça s'appelle pas de la chance. Ça s'appelle du savoir-faire. On a fait un podcast il y a pas longtemps sur le recrutement où j'expliquais entre autres que on fait l'erreur tous de croire que c'est le salaire la première motivation du personnel. Et c'est faux. Il y a un sondage qui est sorti dernièrement, un sondage qui a été fait en collaboration avec Lumi et Bernard Boutboul du cabinet Jira. Le salaire est arrivé en 19e position des préoccupations des salariés. En 19e position. L'élément principal, ce qu'ils recherchent, d'abord, il faut s'adapter à la mentalité des jeunes d'aujourd'hui, que ça soit la génération Z ou celle d'avant, qui ne veulent plus la même chose que ce que nous, on a connu à notre époque, et on peut pas leur donner fondamentalement tort, mais je crois que le problème principal de ce métier, je sais pour l'avoir pratiqué pendant quelques semaines, on va dire, une grosse quarantaine d'années, c'est le manque de respect envers le personnel. Aujourd'hui, là, ce qui arrive en premier, ils veulent de la reconnaissance. Est-ce qu'ils ont tort ? Moi, bien sûr, j'ai commencé mon apprentissage à 14 ans où ça marchait à coups de pompe dans le derche. Pardon, c'est pas correct comme expression, mais elle est néanmoins vraie. Aujourd'hui, ça fonctionne de façon totalement différente. Donc, je crois que c'est pas de la chance que tu as pris connaissance d'un problème, et c'est ce qu'on explique. J'expliquais il y a pas longtemps que dans un autre podcast que sur le fait de passer une annonce. Bonjour, restaurant Intel recherche un cuisinier, un serveur. Je leur dis, t'es comme les autres, mais explique pourquoi tu vas inciter un employé potentiel à venir chez toi plutôt que chez ton voisin qui cherche la même chose. Et donc, la rédaction de l'annonce, elle est très importante, c'est fondamental.
Oui, certainement. En fait, ça commence par là.
Ça commence par là, bien sûr, oui.
C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée, en fait. C'est aujourd'hui, c'est vrai qu'un chef d'entreprise, il doit faire énormément de choses pour avoir une valeur ajoutée. Et donc, dans ses prérogatives, entre autres, celle du recrutement est importante. Et il doit être capable de, justement, de dire, voilà, je recherche, mais pour quelque chose, pour une aventure. Moi, j'aime bien parler d'aventure. J'aime bien, à chaque fois, pour moi, c'est une aventure. Que ça soit de la formation ou de lancer un restaurant. Et c'est ça qui est génial. C'est est-ce que tu veux venir avec moi dans cette aventure et tu vas voir, c'est sympa parce qu'on va y apprendre des choses. Et puis, sans vouloir plomber, on n'est que de passage sur cette planète, autant le faire intelligemment. Et puis, l'avantage, moi, que je trouve dans la restauration pour aller dans ce sens-là, c'est que moi, je goûte tous mes plats et j'adore. Tout simplement. Je suis un gourmand, un épicurien, consommateur.
Si les cuisiniers goûtaient tout ce qui sort de la cuisine, il y aurait moins de surprises.
Ou alors ils finiraient tous comme moi.
on est là, on est toujours là.
on est toujours là, alors, certains avec quelques kilos en plus.
Vous savez, je pense pas que je fais quelque chose de, enfin, j'ai pas l'impression de faire quelque chose de spécial. C'est sûr que d'être toujours à l'affût d'un nouveau talent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais techniquement, je ne fais qu'appliquer la loi. Vous faites un contrat de travail de 35 heures qui peut déraper à 39 ouais. heures, soit. Écoutez, Didier, si je vous dis qu'en venant travailler chez moi, on fait un contrat de 35 heures, vous ne travaillez pas un samedi sur deux. La semaine où vous travaillez le samedi, vous avez deux soirs de libre. Vous avez vu, compris qu'on démarre à 10 heures du matin, donc vers 14h30, 15h, c'est fini. On redémarre à 18h le soir, vers 22h30, 23h, c'est fini. Donc, en gros, vos 35 heures, vous allez les faire en 4 jours. Alors, cher ami, je vous propose un contrat de travail où finalement, excusez-moi pour la sonnerie, où finalement, vous allez travailler 4 jours par semaine. Un samedi sur deux, vous êtes libre. Ça veut dire qu'une semaine sur deux, vous allez avoir samedi, dimanche, lundi, et vous allez suivre avec mardi soir libre et mercredi soir libre. Finalement, demandez-vous quand est-ce que vous bossez, parce que vous avez tellement de temps libre que vous risquez surtout d'être obligé de vous occuper des courses à la maison. Bon, il va s'arrêter, lui, ça y est. Excusez-moi. Donc finalement, je vous propose un salaire. Allez. Je vous propose un salaire bas. Je vais vous proposer 1600 euros net pour 35 heures de travail, 4 jours par semaine. Allez me trouver ça dans le civil. Parce que vous savez, là-dessus, je vais vous filer 8 repas par jour, des vrais, avec de la viande, avec du poisson, avec de la variété. Vous allez manger un repas chaud, midi et soir. Vous allez économiser près de 400 euros de course, sans parler de l'énergie des repas que vous consommez, que vous ne prendrez pas chez vous. Stocké dans un réfrigérateur, cuire chez vous, ça coûte de l'argent. Donc finalement, votre salaire bas de 1600 euros net vient de se transformer en 2000 euros pour faire 4 jours de travail par semaine. À Paris, c'est peut-être insuffisant, mais en province, avec ça, vous vivez comme un roi, et en plus, vous avez une qualité de vie.
Oui, mais je...
Alors qu'on vienne pas me dire que dans la restauration, on a des métiers de chien, il y a certainement 20% de la profession où les patrons n'ont pas appris à être patrons, ils sont devenus patrons parce qu'ils ont été premiers dans un concours de circonstances et non pas parce qu'ils ont été formés pour, parce qu'ils ont les diplômes pour, parce qu'ils ont travaillé pour. Si ces gens qui se plaignent tout le temps de ne pas trouver de personnel et de ne pas arriver à gérer l'humain de leurs établissements, bah, au lieu de piailler, ferait mieux de se mettre au boulot, parce que depuis que ces imbéciles font un tel bruit, les quelques collaborateurs qui étaient encore hésitants, eh bien, chez certains de mes collègues, ils sont devenus cons. Figurez-vous que j'ai vu passer une annonce l'autre jour, un cuisinier cherche du travail, je vous passe la rédaction de l'annonce, et le gars termine, j'attends vos propositions. Mais pour qui se prend-il, celui-là? Non, mais attendez, j'ai vu. Alors, j'ai la chance d'avoir le choix pour sélectionner mes collaboratrices et mes collaborateurs. Donc, je sélectionne des gens intelligents. Voyez-vous, par exemple, dans un de mes restaurants, j'ai une jeune femme qui travaille 2 jours et demi par semaine parce qu'elle termine ses études d'avocate. Eh bien, de temps en temps, on a des échanges à table autour du repas de famille. Alors, le repas de famille, c'est notre repas de personnel, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et en fait, elle s'étonne de certaines discussions qu'elle entend par ses collègues du bahut où elle fait ses études. Certains s'imaginent qu'on peut faire serveuse pour l'été. Je reçois des dizaines de CV par mois de garçons et de filles qui me demandent un job d'été, mais je peux pas. Je peux pas prendre une jeune fille de 17 ans pour un job d'été pour un mois. D'abord, elle est mineure. À 22h, faut qu'elle rentre chez elle. C'est ça, la loi. Ensuite, elle est mineure quand même, il faut une autorisation parentale. Ensuite, eh bien, il faut l'assurer. Ensuite, on ne peut pas la payer en dessous du SMIC. Ensuite, il faut l'accueillir, l'intégrer, la former, la monter en compétences jusqu'à ce qu'elle soit indépendante dans son travail. Et pour ça, nous allons mettre 4 à 6 semaines. Mais la fille, elle a qu'un mois. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous pensez sérieusement que je vais m'investir dans la formation de quelqu'un qui pense pouvoir vendre des bières et porter des assiettes? Mais attendez, on est dans un restaurant. Ici, on n'est pas chez McDo, c'est pas une Bierstube, c'est pas une Wienstube, c'est pas une pizzeria de bas de gamme. J'ai des copains qui ont des restaurants italiens, qui font des pizzas incroyables et des plats italiens traditionnels. Mais leurs serveurs et leurs serveuses, c'est pas des porte-assiettes, c'est des vendeurs, c'est des vendeuses, ce sont des avions de chasse, ce sont des collaborateurs qui sont cultivés, qui connaissent l'histoire, la géographie, la provenance des plats qu'ils finalement, j'allais dire, vendent. C'est de la prescription à ce stade-là. C'est que puis-je faire pour votre bonheur? Tenez, je vous prescris ça, et vous allez voir le basilic qui est dedans, vous allez vraiment avoir une belle sensation à l'odeur, et la promesse dans le nez, vous l'aurez dans la bouche. Voilà ce qu'est capable de dire un vendeur. Une jeune fille ou un jeune homme qui a 16 ou 17 ans et qui veut un job d'été, c'est pas dans un restaurant qu'il faut aller. C'est chez le marchand de glace qui vend des tartes aux pommes sur la place principale du village, peut-être. Mais je suis désolé, ici en Alsace, la cuisine basse température, on la connaît depuis la nuit des temps, nous sommes au pays du Beckehof, donc basse température et à l'étouffée, c'était le sous-vide de l'époque. Et ici, eh bien, les jeunes, on les embauche l'été dans les fêtes de village. On fait des tartes flambées, on vend des bières, c'est la fête des pompiers, c'est les associations qui organisent. Là, ils ont leur place. Mais c'est bien parce que des patrons engagent dans leurs établissements des gens qui ne sont ni formés, ni faits pour le métier, que souvent ces établissements se retrouvent dans des états financiers lamentables avec des clients qui sont mécontents. Il faut des professionnels. Et comme les professionnels, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, ce n'est pas fabriqué sous une pierre, ça ne se commande pas sur Amazon par paquet de 10, eh bien il faut les fabriquer. Quand on recrute quelqu'un, il faut être présent pour le former, pour l'accueillir, pour l'intégrer. Il faut lui montrer son armoire, son casier, ses affaires, parce que si vous vous imaginez que vous pouvez recruter même un grand professionnel, qui a des années de métier, si vous vous imaginez que ce type-là ou cette femme-là va rentrer dans votre restaurant et saura immédiatement où vous rangez vos petites cuillères et où sont les litos, eh bien vous foutez les doigts dans le nez. Il ne pourra pas trouver tout seul où est le gros sel pour remplir le moulin, ni est-ce qu'on met du poivre noir de Madagascar ou du séchouan dans les moulins bruns. Il pourra pas le savoir tout seul. Donc il faut bien former le personnel. Il faut le monter en compétence et toujours le suivre, l'envoyer régulièrement en formation ou faire venir un formateur dans l'entreprise. C'est ça la vérité. Dites-vous bien que beaucoup de mes confrères qui sont autour de mes restaurants ont des restaurants qui sont pleins. Eh bien, ce n'est pas mon cas. Mes restaurants ne sont pas pleins. Par contre, nous pourrons comparer nos chiffres d'affaires. J'ai des restaurants qui ne font pas le plein, mais j'ai des clients de qualité à qui je propose du personnel de qualité, des plats de qualité. Donc finalement, à quoi bon être à 8 pour servir 30 ou 40 ou même 50 couverts par personne avec un panier moyen ridicule? Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir moins de clients par serveur et avoir des serveurs de qualité qui font un beau panier moyen plutôt que de foutre la cuisine dans la merde en permanence, d'être dans l'urgence et puis un jour vous vous dites je trouve plus de cuisiniers. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous achetez des merdes pour faire de l'assemblage et du réchauffé et vous vous retrouvez avec du surgelé. Eh bien écoutez, moi non. J'ai des établissements qui font moins de 50 couverts. En cuisine, certains jours, pour 50 couverts, ben je suis seul parce que voilà, je vous savez, mes apprentis, la semaine où ils sont à l'école, je les oblige pas à venir au boulot. C'est la semaine où il est à l'école, le samedi il reste à la maison. Si j'ai besoin de lui, je sais qu'il viendra. Si je suis malade, il sera là. Mais c'est sa semaine d'école. Alors que tous ses copains de classe, sur les 37 élèves, t'en as pas un qui a un samedi de libre, t'en as pas un seul, parce que leur patron, eh bien, après l'école, tu viens, et même certains soirs, il y a des apprentis qui s'endorment pendant la classe, parce qu'ils ont des semaines de 80 heures, et après tu t'étonnes qu'on trouve pas de personnel, et les mêmes qui se plaignent sont ces 10, peut-être 15, allez, 20% de mauvais patrons, qui prennent leurs employés pour des cons, ou alors tout simplement, qui ne se donne pas la peine de se former pour être de bons patrons respectueux, sachant recruter, intégrer, former, monter en compétences. Et je le conçois. Mais alors pour ça, on fait appel à des professionnels. Moi, la cuisine sous vide, je l'ai pas inventée, hein. C'est parce que quelqu'un me l'a appris. J'ai constaté un jour mes échecs en tant que patron, je suis allé me former. D'autres professionnels m'ont appris. Encore aujourd'hui, j'ai passé un coup de fil à mon ami Christophe à l'UMI à Strasbourg, j'avais besoin d'un conseil. Alors que souvent, quand vous discutez avec des restaurateurs, « Oui, mais moi, j'ai pas le temps. » Alors écoutez, si t'as pas le temps, t'as pas le temps. On n'a rien pour rien.
Eh ben, c'était un coup de gueule salutaire.
Ouais, non, mais là, c'est un terrain sur lequel, des fois, j'ai du mal. Excusez-moi, j'ai été un peu...
Non, mais moi, on ne peut que partager cet avis. Hein.
Quel profil tu mets au niveau de l'envoi quand tu recrutes quelqu'un quel genre de profil tu utilises?
Vous êtes plus important que vos diplômes. Votre personnalité est plus importante que vos qualifications. Voilà la phrase clé pour moi. Parce qu'en fait, t'as beau être le plus grand cuisinier du monde ou le meilleur serveur, si t'es un gros con, je peux rien faire pour toi. Le boulot d'éducation, c'était tes parents. Moi, je suis pas ton père.
Ben, ça rejoint ce qu'on disait, où le savoir-être est plus important que le savoir-faire. C'est quand tu as le savoir-être, tu peux apprendre le savoir-faire.
Je ne fais qu'appliquer les préceptes de nos pères. Les grands cuisiniers de ce monde, et certains sont déjà au paradis, comme on dit, disaient bien qu'un chef doit savoir faire. Mais le plus important, c'est savoir-être.
Ben oui, bien sûr.
Donc, si nous nous référons à Monsieur Escoffier et que on a un petit peu étudié sa vie, et je pense que humblement collaborateurs de profession que nous sommes, nous devrions tous à un moment donné nous se demander d'où vient notre métier, comment ça se fait qu'il est si bien organisé par rapport à d'autres, etc. Parce que nous avons quand même un métier qui est élevé à l'état d'un art. C'est bien parce que Monsieur Escoffier un jour l'a codifié, ce métier. Peu de professions peuvent se vanter d'être aussi organisées que la nôtre, vraiment. Et quand on sait ce que Monsieur Escoffier a fait pour ses collaborateurs pendant la guerre, et il les a mis au service de la patrie, il a veillé à ce qu'ils ne manquent de rien et que leur famille soit à l'abri. Et une fois que tout ça s'était terminé, il leur a procuré du boulot dans les plus grandes maisons du monde. Monsieur Escoffier, malgré tous ses défauts, était une personne bienveillante. Alors, était quelqu'un d'exigeant, certes. Était quelqu'un qui passait sa vie au boulot, certes. Mais enfin, Monsieur Escoffier a été le script de ce qu'est aujourd'hui le notre vie. Je pense qu'à un moment donné, Monsieur Escoffier, il faut se souvenir de cette phrase où il a dit « Moi, je forme des gentlemen. Je ne forme pas que des cuisiniers, je forme des gentlemen. » Parce que l'éducation fait partie de la transmission. Si tu te comportes comme un connard avec ton apprenti, mais comment pensez-vous que votre apprenti se comportera plus tard quand il aura des apprentis? Ben, il mettra un cran au-dessus, parce qu'il voudra être plus con que son chef, pour montrer qu'il a compris et qu'il est compétent. Eh bien, je préfère que mes apprentis mettent un ton au-dessus pour transmettre du vrai savoir, de la bienveillance, du respect, de l'intégrité.
Ben voilà. Et tout est dit. Maintenant, il va falloir faire un podcast sur la formation, parce que vous savez que notre président, notre cher président, quand même, met à mal les formations, puisqu'il va finalement les arrêter, nous sommes bien d'accord. Puisque quand quelque chose fonctionne, bah, il faut mieux l'arrêter. Et comme ça, on aura effectivement des apprentis qui gagneront 100 euros par semaine. Mais voilà, ils auront 100 euros par semaine. Et sorti de ça, on va arrêter les formations directement en entreprise. On va du coup pas les arrêter. On ne les remboursera plus. Et c'est ce que je disais, donc ça peut faire partie d'un podcast, c'est est-ce que cette mutualisation que tout restaurateur, toute personne qui est dans le métier de bouche se voit maintenant dépossédée au profit de formations à la Mormoine et au détriment de voilà de la qualité des formations qu'on peut produire, j'allais dire, en étant sur place comme on le fait aujourd'hui. Bah, ça peut faire partie d'un podcast, savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place pour les années à venir.
Bah, écoutez, Yann, sortons notre machine à calculer. En moyenne, en France actuellement, le bœuf, si on commence avec des pièces pas chères et qu'on reste sur des choses à peu près courantes, hein, un filet de charolais doit taper à plus de 30 euros. Donc si on coupe la poire en deux, on va dire 15 euros le kilo. Hein, on va partir sur une joue de bœuf qui doit coûter 10-12 euros le kilo quand on en achète beaucoup. Poire de bœuf, c'est à peu près pareil. Après, si on part sur des trucs encore moins chers où il faut les cuire pendant 2 jours, je suis pas sûr qu'on gagne vraiment beaucoup d'argent. Mais voilà, partons sur un kilo de bœuf à environ 15 euros le kilo. Vous avez, je sais pas moi, vous faites 100 couverts par jour. Sur vos 100 couverts, vous allez vendre un tiers de bœuf. Vous allez vendre des portions d'environ 180 à 200 grammes, on va dire 200 grammes de viande crue, sans les parures, etc. Donc finalement, si on prend notre calculette, alors je vais essayer d'attraper la mienne, on va juste faire un calcul de bas étage, et vous allez voir que cette histoire de formation, que le gouvernement ne rembourse plus, ben moi ça me fait ni chaud ni froid, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc si vous prenez vos 30 pèlerins qui, chaque jour, vos 30 clients, vont manger 200 grammes de bœuf. Voilà. Vous êtes déjà à 6 kilos quand même. Hein. Donc, 6 kilos que vous allez multiplier par 5 jours par semaine et que vous allez multiplier par 50 de... Ah bah, mon Dieu, vous êtes à 1 tonne 560. 1 tonne 560 fois 15 euros, 23 400 balles. Donc moi, grâce à ma cuisson basse température, comme je vous ai dit, j'ai économisé 17%, j'ai agrandi ma marge de 17% sur mes viandes en général. Alors que là, je ne vous parle que du bœuf. Je ne vous parle pas de l'économie d'énergie. Je ne vous parle pas de toutes les autres viandes que j'utilise. Eh bien, sur mon budget bœuf, en économisant 17%, eh bien, ça va me dégager 3 978 euros. Combien allez-vous me facturer 3 jours de formation si vous venez chez moi? Alors je vous prie de croire qu'à mon avis, ça coûtera moins cher que ce que je vais gagner en économisant sur mes viandes. Que le gouvernement arrête de rembourser les formations ou pas, ben écoutez, si les patrons jugent que c'est trop cher, peut-être qu'ils devraient mieux mesurer ce qu'ils vont gagner en faisant appel à un formateur pour se faire former, plutôt que de se demander combien ça coûte. Il vaut mieux se demander combien ça va vous rapporter, parce que croyez-moi, j'ai augmenté de 17%, et c'est vérifiable sur un bilan, ma marge sur les viandes. C'est beaucoup. Ça m'a fait baisser ma facture d'énergie. Alors tout le monde a gueulé dernièrement, oui, alors il y en a qui ont des budgets électricité, mais je sais pas comment ils font, les mecs doivent alimenter des villes avec leurs restos. Hein. Moi, j'ai à peine vu passer les augmentations. Pourquoi? Mais parce que moi, je fais gaffe. Quand j'ai plus besoin de mes bécanes, je les éteins. Quand j'ai plus besoin de mes plombs, je les éteins. Quand le serveur, qui est parfaitement formé lui aussi en salle, me dit chef, c'était la dernière table, eh bien, je coupe mon passe, je coupe mon chauffe-assiette, parce que mon chauffe-assiette, il va rester chaud encore au moins une demi-heure. Je coupe ma salamandre, et puis j'ai investi à peu près 2500 euros pour installer un appareil électrique dans mon tableau électrique qui, en dehors des heures d'ouverture du restaurant, me met en hors tension tous ceux dont je n'ai pas besoin, que ce soit le moulin à café, que ce soit le Thermomix qui est branché. Tant qu'on l'allume pas, il consomme pas plus, mais le fait simplement d'être branché, le transformateur de l'appareil, lui, est en tension et prend de l'électricité. Donc, je pense qu'il faut se demander, plutôt que de se demander combien coûte une formation, c'est se demander ce qu'elle va vous rapporter. Et croyez-moi, si vous me proposez une autre formation qui peut me faire économiser 17% sur un autre poste de mon restaurant et de mon entreprise en général, je signe.
Très bien, parfait.
Super. Ben voilà, le podcast est fait.
Ah oui.
Bon, ben merci. C'est cool. Je pense qu'on a fait une bonne tour de tout ce qu'on voulait voir ensemble. Merci, James. Merci, messieurs.
Je vous en prie.
Ouais. Et puis, bah, je pense qu'on aura l'occasion cette fois de travailler ensemble pour de vrai, James, parce que bah, tu es quelqu'un qui a envie de transmettre, on l'a bien senti, donc on sera ravis de t'avoir avec nous dans, justement, bah, dans les formations, chez nos clients, parce que tu as plein de choses à transmettre. Donc, d'avance, merci pour tout ça.
Et puis, pour ceux qui doutent, hein, bah, si vous avez l'occasion de vous déplacer en Alsace, venez manger dans un de mes restaurants sans vous annoncer. Comme ça, vous ne pourrez pas dire qu'on a fait ça bien juste parce que c'était vous. Ça fait un peu gonfler de ma part, mais je me suis fait un confrère hier qui a mis en doute ses méthodes de travail. Je lui ai proposé de venir avec moi, comme j'ai à mon établissement de Haguenau une cuisine assez vaste. Eh bien, on a mis en route les postes pour travailler à deux, parce que par le passé, l'établissement avait deux étages. Et on a mis en route la double cuisine et on a fait tous les deux le même plat et puis on l'a goûté. Moi, je l'ai sorti en 14 minutes, lui en 25. On a préféré le mien.
Ben, forcément.
Voilà.
La viande était
tout est dit.
La viande était beaucoup plus juteuse et beaucoup plus tendre. Voilà, grâce à la basse température, cette cuisson sous vide, je vous assure, c'était une grande trouvaille. Je ne suis pas tombé dedans par hasard. J'ai accompagné un grand chef jusqu'à son dernier jour. Il s'appelait Émile Young et Émile travaillait la basse température dans son restaurant
Le Crocodile, ouais.
À Strasbourg, déjà à l'époque. Bien jeune. Voilà, Émile est décédé il y a 2 ans. C'était un ami. Au-delà du respect, à la fin de sa vie, je m'étais pris d'amitié pour ce vieil homme. Nous avions de très, très longues conversations. Ça m'a laissé un héritage incommensurable. Et la basse température, la cuisine sous vide, en Alsace, on connaît de manière naturelle la bonne vieille histoire du Beckehof. Vous savez, cette espèce de gros cacon en terre cuite que l'on portait chez le boulanger, avec à l'intérieur le plat, lutté avec une pâte à pain. Quand on avait terminé de faire le pain dans le four qui était encore chaud, eh bien, le boulanger glissait ça le matin quand on partait au champ, et le soir quand on revenait, on allait le chercher pour le repas du soir, et on avait quelque chose qui était très chaud, mais surtout qui était cuit, qui était confit, qui était... Alors, cette étouffée que faisait alors c'était quasiment du sous vide, hein, parce que les trucs étaient blindés jusqu'en haut et on appuyait dessus pour que ça tienne et on mettait des griffes pour tenir le tout et on mettait pour étanchéiser, on luttait avec de la pâte à pain. Voilà le Beckehof, cette cuisine basse température dans un four en train de refroidir où ça allait rester au chaud doucement, cuire toute la journée. Voilà, la cuisine basse température avec nos thermoplongeurs, avec nos sondes, avec nos vapeurs, en fait, ça a juste mis la technique d'aujourd'hui au service de ces 6 belles recettes. Aujourd'hui, pour faire un Beckehof, pour moi, c'est extrêmement simple. Alors que si je le faisais à l'ancienne, c'est toute une armada qu'il faut mettre en route pour arriver à finir dans ce plat, et puis après, pour envoyer ça dans un restaurant, mon Dieu, mais c'est presque infaisable. Ou alors, il faut que vous passiez avec votre gros plat avec Beckehof et que vous fassiez le tour des tables pour servir les gens, tout le monde à partir de la même gamelle. Mais quand vous avez un petit restaurant où l'un veut du bœuf, l'autre veut du veau, le troisième veut des rognons, le quatrième veut du poisson, le cinquième est végétarien, arrive deux touristes, oh, j'ai entendu parler de votre Beckehof, comment on fait? Ils sont deux. Eh ben, il faut savoir faire du Beckehof pour deux, tout comme on sait faire une choucroute pour deux. Alors, la cuisson basse température, comme dit, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai un tableau des appoints de cuisson qui fait une page avec plusieurs méthodes. La température à cœur des aliments est extrêmement importante Et ce tableau reprend toute mon expérience, les choses que Émile a bien voulu me dire, et puis d'autres échanges avec les copains, un stage par-ci par-là. Je crois qu'il y a bien des cuisiniers qui tueraient pour avoir mon tableau.
Bon, bah merci encore, messieurs, à tous. Ouais. Merci, James.
Merci.
À moins que, encore une fois, vous avez une petite question, un petit mot de la fin, Christophe ou Didier, je sais pas.
Non, bah je crois que tout est dit là, et brillamment dit, je dirais. Et c'est bien parce que James a dit des choses que nous, on n'ose pas dire.
Comme dit, moi, je ne suis pas... ni formateur ni vendeur de formation, j'ai même des fois un langage parfois un petit peu cash qui pourrait déranger, mais j'essaye de faire des efforts pour parler normalement. Mais vous savez, un chat c'est un chat. Moi j'ai débuté dans le métier en faisant des choses que j'ai pas pris conscience qu'elles étaient si importantes, et un jour dans une formation où j'étais là pour recevoir les conseils d'un meilleur ouvrier de France, il me dit le dernier jour, vous savez, quand on assemble tous les plats avant de se mettre tous autour de la table et de manger tous ensemble ce qu'on a fait pendant 3 jours, il me dit vous stressez pas? Et je lui dis c'est-à-dire à quel sujet? Il me dit vous avez un mariage ce week-end, ils sont nombreux quand même. Et à l'époque, je n'avais pas encore de restaurant, et je regarde ce monsieur qui a une tête de plus que moi, un sacré gaillard, et je lui dis, attendez, comment pouvez-vous stresser, vous? Enfin, comment pouvez-vous me dire, vous, que vous stressez, vous pourriez stresser à la veille d'un mariage, où vous avez 200 personnes à l'apéro, et je sais pas, je crois qu'ils étaient 100 ou 110 à table, il me dit, oui, quand même, tout ce monde-là, à manger en même temps. Et moi, je regarde avec des yeux comme ça, et je lui dis, mais attendez, pour moi, vous êtes un magicien. Comment vous arrivez à faire en sorte que 50 personnes rentrent dans votre restaurant à midi? Ils n'arrivent pas à la même heure, pas ensemble. Ils arrivent par deux, par cinq, par trois. Ils veulent manger vite et ils n'arrivent pas ensemble et ils veulent tous manger des trucs différents. Et vous arrivez à faire manger tout ce monde-là pour qu'ils repartent travailler à 2 heures. Alors, il me dit, non, chez nous, les gens prennent le temps de manger, c'est une expérience, etc. Et ça va pas aussi vite, mais c'est vrai que, il y en a quand même qu'il faut arriver à faire manger dans un délai raisonnable. Pour moi, c'était un restaurant, ça relevait de la magie. Et en fait, tout ce que j'avais pu apprendre, tous les échanges que j'avais eus pendant des années pour améliorer mon travail au traiteur. Alors, traiteur, finalement, je n'ai que le nom. Je cuisine pour de vrai. Quand on débarque dans une salle des fêtes, la viande, elle est crue, hein, on la cuit sur place. Et à force d'eux, et puis un jour, j'ai pris mon premier restaurant, mais qu'est-ce que j'avais peur? J'ai été chez 2-3 copains pour vivre avec eux des services. Et parallèlement, d'autres copains me demandaient des coups de main et des conseils quand ils avaient des groupes. Alors évidemment, quand on était en mode groupe, ça c'est mon terrain, ça volait dans la cuisine. Il y a même des moments où je m'excusais de prendre un peu la main, et les choses se faisaient, les clients étaient contents, etc. Mais quand je suis allé essayer de travailler à leur manière, ça a été pour moi très 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 difficile. Je comprenais pas toujours. Et c'est grâce à tout l'acquis que j'ai eu en tant que cuisinier de mariage, tous ces préparatifs où finalement tu prévois tout ce qui est prévisible, comme ça tu as le temps de t'occuper de l'imprévu. Eh bien, dans les restaurants, quand j'ai lancé ma première carte, eh bien, depuis le début, cette carte est restée la même. Elle a marché tout de suite. Elle n'a pas bougé d'une virgule. Alors évidemment, on a le plat de la semaine qui est lié au marché, on a le plat du mois qui est lié à la saison, et puis de temps en temps, il y a des copains ou des vendeurs qui m'appellent parce qu'ils ont un lot de machin à vendre, on se met à 2-3 et on a des suggestions, donc les habitués vont y trouver leur compte. On a une ardoise en plus de cette carte signature. Et en fait, dès le début, J'ai mis en place les techniques de basse température, de conservation, de stérilisation, de mise sous vide. Et quand le Covid est arrivé, j'ai eu la chance d'avoir très, très, très peu de pertes. Vraiment très, très peu de pertes. Quand on a pu réouvrir, les gens ne sont pas revenus tout de suite. Ensuite, deuxième fermeture, on était fermé le soir. Pour moi, faire de la vente à emporter, c'était de la rigolade. Parce que toutes les techniques liées aux traiteurs, je les connaissais. Je voyais les copains faire de la vente à emporter, ils vendaient de la bouffe trop cuite. Alors que moi, je vendais de la bouffe, vas-y, tu la réchauffes, et quand tu la réchauffes, tu vas terminer la cuisson, elle sera comme au restaurant. Et en fait, j'ai réussi à passer toutes ces crises parce que je vais peser, grammer, mettre sous vide, stériliser, cuire de nuit, etc. Et j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais avec mon humble savoir pour essayer de... En fait, j'ai mis en application, j'ai mis en œuvre tout ce que j'ai appris, et j'ai vraiment... j'ai un peu d'émotion, excusez-moi, mais je remercie vraiment du fond du cœur, infiniment, tous ceux qui m'ont transmis ce savoir. Sinon, je ne serais pas là.
Écoutez, merci, vraiment. C'était un mot de la fin assez long et plein d'émotions.
Ouais, voilà, mais merci, fond, merci. Ça,
c'est top. Hein Et puis, on se retrouve. Peut-être qu'on fera un autre podcast avec toi, James. Je pense que t'as plein de choses à dire.
Ah, ce sera avec plaisir.
J'ai été un peu. Je tâcherai d'être moins bavard la prochaine fois.
Non, il faut être bavard. Il faut être bavard.
Oh, mais c'est de la faute de Yann. Il faut meubler, il n'a pas parlé.
Non, moi, j'écoute.
Encore merci tous. Et puis, on se dit à très bientôt.
À très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.